السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah Ta'ala ka ek naam Sattar hai.
Un des attributs de Dieu est Sattar. Et dans le lexique, il est dit que Sattar est celui qui est caché. Et il est dit à propos de Dieu que Wallahu Sattarul Uyub. C'est-à-dire, Allah est celui qui cache les fautes et les faiblesses des autres. Il ne se contente pas de cacher et de couvrir les faiblesses et les fautes de l'homme. Mais selon les hadiths, il est dit qu'Allah aime que l'on agit ainsi, c'est-à-dire que l'on couvre les faiblesses des autres. Dans un hadith du recueil Musnad Ahmad, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit Inna Allaha azza wa jalla yuhibbul haya wa sitr. Yala bin Umayya rapporte ce hadith et déclare que le saint prophète a déclaré certainement, Allah aime la pudeur et il aime que l'on couvre les défauts des autres. Voyons comment Allah couvre les défauts de ses serviteurs. Il y a un hadith à ce propos. Safwan bin Mourid rapporte qu'une personne a demandé à Haddad ibn Umar « Qu'avez-vous entendu des conseils du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ?» Il a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit « L'un d'entre vous va se rapprocher de son Seigneur à tel point qu'il sera sous l'ombre de sa grâce. Et ensuite, Allah lui demandera « As-tu accompli tel ou tel acte ?» Il va répondre « Oui, mon Seigneur. » Dieu va lui demander de nouveau « As-tu accompli tel ou tel acte ?» Il va répondre « Oui, mon Seigneur. » Et ensuite, Allah va déclarer que sur terre, j'ai couvert tes défauts, je n'ai pas exposé tes défauts, et aujourd'hui, au jour de la résurrection, je vais cacher tes défauts et tes faiblesses, et je vais te pardonner tes excès de conduite. Voilà notre Seigneur bien-aimé, celui qui pardonne ses serviteurs, celui qui couvre les défauts de ses serviteurs. Dans un de ses écrits, le Messie premier salam déclare que les autres religions ne peuvent point présenter un concept similaire, notamment le fait que Dieu couvre les défauts des hommes. Si ce concept existait parmi les chrétiens, par exemple, il n'y aurait plus de rédemption dans le christianisme. Et de même, dans l'hindouisme, il n'y aurait plus de concept de réincarnation, à savoir que Dieu châtie en ce monde en faisant naître les gens sous différentes formes. Ce concept existe uniquement en islam, à savoir que Dieu est Sattar, et l'on constate cela ici-bas et dans l'au-delà. Mais cela ne veut point dire que puisque Dieu pardonne les péchés, puisque Dieu aime couvrir les défauts, et qu'il a déclaré qu'il pardonne aux hommes, et que j'ai couvert vos défauts sur terre et que je ne vais pas exposer vos faiblesses ici, cela ne veut point dire que nous devons outrepasser les limites, que nous devons vivre une vie débridée et ne plus faire de distinction entre le bien et le mal. En disant que de toute façon, l'on sera pardonné, l'on peut commettre autant de péchés que l'on veut. Dans un hadith, il est dit que les voiles de Dieu qui recouvrent son serviteur sont innombrables. C'est-à-dire, l'homme, le croyant, est recouvert de voiles. Il est recouvert de voiles afin que ses péchés soient cachés. Lorsqu'il commet un péché, un voile se déchire. Et s'il persiste à commettre des péchés, en fin de compte, aucun voile ne va le recouvrir. Ensuite, Allah va s'adresser à ses anges et va dire « Cache mon serviteur !» Et les anges vont l'entourer de leurs ailes. Voyez donc comment Allah couvre les défauts des hommes. Mais si l'homme concerné ne se réforme pas après un tel traitement de la part de Dieu, dans ce long hadith, il est dit que si cette personne se repent après que les anges l'ont recouvert de leurs ailes, Allah va accepter son repentir et Allah va le recouvrir de ses voiles. Au contraire, pour chaque voile, en retour, il aura 9 autres voiles afin qu'il soit pardonné. Mais si l'homme ne se repent pas et s'il s'entête à commettre des péchés, les anges vont dire « Comment allons-nous le couvrir ? Il est en train d'outrepasser les limites et il est en train de nous avilir. » C'est ainsi qu'Allah va dire que « Laissez-le de côté. » Et ensuite, il est dit qu'Allah va exposer au grand jour tous ses péchés et toutes ses faiblesses, même ses péchés qu'il a commis en pleine obscurité. C'est-à-dire, Allah ne va plus couvrir ses péchés. Tout croyant doit agir dans le sens du repentir et nous devons tout le temps essayer de profiter de cet attribut Sattar de Dieu. À ce propos, le Messie premier al-Islam déclare dans un endroit que Malik Yawmiddin signifie que Dieu aide l'homme à atteindre son objectif. Par exemple, si une personne travaille dur pour passer son examen, mais qu'elle lui manque 2 points pour passer, on ne lui accorde aucune chance et il ne passe pas son examen. Mais la rahimia de Dieu agit contrairement. Allah comble ses lacunes et le fait passer. La rahimia possède cet aspect de couvrir les défauts. Ensuite, le Messie premier salam déclare : l'islam a présenté ce Dieu qui mérite toutes les louanges. Il est Rahman et il accorde des faveurs gratuitement. L'islam a donc présenté un Dieu qui est digne de toutes les louanges. C'est lui qui réunit en lui toutes ses grâces et tous ses attributs. Et il accorde par l'entremise de son attribut Rahman. C'est-à-dire, il accorde aux hommes même s'ils n'ont rien fait ou s'ils ont accompli une action quelconque, Allah les récompense de façon illimitée. Telle est sa malikia. Des fois, sa malikia prend la forme de la rahmania. Et sans compter, il accorde des faveurs et il couvre les défauts et les faiblesses. Ensuite, il a déclaré, il y a la malikia yomidin. Et la malikia le fait atteindre son objectif. Un État ne peut garantir à toute personne qui passe son examen qu'elle aura certainement un emploi. Mais le gouvernement de Dieu est parfait. Il est le maître de trésors sans fin. Et il accorde le succès à tout le monde, à tous ceux qui font des efforts. Et il récompense les vertus et couvre les défauts et les faiblesses et il comble les lacunes. Il est aussi tawwab et il est mustahyi. Allah connaît les milliers de défauts de ses serviteurs, mais il n'expose pas au grand jour ses défauts. Il ressent de la pudeur pour ses serviteurs. Il est dit qu'Allah aime la pudeur. Et il ressent cette pudeur non pas parce qu'il est embarrassé pour évoquer quelque chose, mais il est en train en fait de protéger son serviteur de tout embarras. Mais l'homme peut faire preuve d'une hardiesse impudente et s'obstiner à commettre des péchés, et il peut ne pas profiter de la retenue de Dieu. Dans ce cas, l'athéisme va s'ancrer davantage en lui. Dans ce cas précis, le sens de l'honneur pousse Dieu à humilier et à châtier cette personne. Le Messie premier salam déclare donc, je veux tout simplement dire que la rahmia a aussi cet aspect, c'est-à-dire que Dieu couvre les défauts. Mais avant que ces défauts soient couverts, l'on doit accomplir une action quelconque. Et s'il y a des lacunes, Allah va combler ces lacunes par le biais de sa rahmia. Et d'autres fois, il exprime aussi sa rahmania. En fait, ce que veut dire le Messie premier salam ici est que grâce à la rahimia, Allah couvre les défauts de ses serviteurs et il récompense l'homme. Il récompense l'homme pour ses actions. Et si l'homme ressent de l'embarras pour ses péchés et s'il se repent, Allah va couvrir ses péchés. Donc, Allah aime la retenue et aime couvrir les péchés, mais cela ne veut point dire que l'homme doit s'obstiner à commettre des péchés. Cela le poussera à commettre davantage de péchés et ainsi le mal va se répandre dans la société en raison de cette personne. Cette personne va penser qu'il n'est pas essentiel d'accomplir des actes de vertu. Dans un hadith, il est expliqué que ceux qui s'obstinent à commettre le péché ne sont pas traités avec retenue par Dieu. Au contraire, Dieu dévoile au grand jour les péchés qu'ils ont commis en pleine obscurité. L'on doit tout le temps implorer Dieu pour qu'il couvre nos faiblesses et nos manquements. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné des prières à ce propos. Hadrat Jubair bin Mutam rapporte que j'ai entendu Ibn Umar dire que jamais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'abandonnait les prières suivantes. Le saint prophète priait ainsi: Ô Allah, couvre ma nudité. Transforme mes craintes en paix. Ô Allah, protège-moi des dangers qui sont devant moi, qui sont derrière moi. Protège-moi des dangers qui sont à ma droite et à ma gauche. Protège-moi des dangers qui sont devant moi et je cherche ta protection contre les dangers qui me guettent en dessous de moi. Donc, c'est une prière complète pour profiter du pardon et de l'attribut sattar de Dieu. Allah avait promis au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il va le protéger de tout écart de conduite. Au contraire, le saint prophète a déclaré que son Satan est devenu musulman. En fait, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a récité ses prières pour nous les enseigner. Qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre cet esprit et qu'Allah nous donne la possibilité d'agir en ce sens. Ensuite, à notre époque, le Messie premier salam nous a enseigné d'autres prières. Je vais citer leur exemple ici. Le Messie premier salam déclare: Ô mon bienfaiteur, ô mon Dieu, je suis ton serviteur négligent, un fier pécheur. Tu m'as vu commettre excès après excès, mais tu m'as accordé récompense après récompense. Tu m'as vu commettre péché après péché, mais tu m'as accordé faveur après faveur. Tu as couvert mes péchés et tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Aujourd'hui, aie pitié de moi. Moi qui suis un pécheur de la tête jusqu'aux pieds, pardonne-moi mon effronterie et mon ingratitude. Protège-moi de cette tristesse, car rapporte-toi, il n'y a d'autre protecteur. Amin. Ensuite, le Messie premier salam nous enseigne une autre prière. Il déclare: Ô le Rabbul Alamin, je ne peux te remercier pour toutes tes faveurs. Tu es miséricordieux et tu m'as accordé d'innombrables faveurs. Pardonne-moi mes péchés afin que je ne sois point détruit. Accorde-moi ton amour sincère afin que je puisse avoir la vie et couvre mes faiblesses. Fasse que j'accomplisse des actions qui te plaisent. Je demande ta protection contre ton courroux. Aie pitié de moi et protège-moi des calamités de ce bas monde, car toutes les grâces se trouvent entre tes mains. Amin, thumma amin. Ces prières doivent faire partie intégrante de notre vie, afin que nous puissions jouir de la protection de Dieu et afin que nous soyons toujours prêts à voir nos faiblesses et nos péchés. Et afin que nous puissions, grâce à la protection de Dieu, éviter ces péchés et ces écarts de conduite. afin de profiter des faveurs de cet attribut de Dieu et afin d'attirer les grâces de Dieu, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a prescrit certaines actions aux croyants. Il leur a imposé certaines responsabilités. À ce propos de ce hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: celui qui a protégé la sainteté et l'honneur d'une femme croyante, Allah le protégera du feu de l'enfer. J'ai choisi ce hadith pour ceux qui, lorsqu'il y a des disputes entre époux, commencent à lancer des accusations les uns contre les autres. Ils ne lancent pas ces accusations contre leurs époux, mais des accusations sont portées aussi contre les membres de la famille de l'autre. Lorsque, par exemple, le mari se lance contre son épouse, il commence à porter des allégations mensongères. Allah déclare que vous devez couvrir les défauts de l'autre. Mais dans certains cas, certains sont coupables d'odieuses calomnies. Des fois, le mari ou les parents du mari, dans le tribunal ou devant le qada, portent des accusations qui font rougir de honte celui qui les entend. Le saint prophète a donc déclaré que protéger la sainteté d'une croyante, et c'est ainsi qu'Allah vous protégera du feu de l'enfer. S'il y a de l'incompatibilité entre les époux, s'il y a une séparation, quelles que soient les raisons, si on a à se séparer, qu'on se sépare. Mais l'on peut très bien se séparer sans porter pareille accusation. Un Ahmadi doit donc éviter de porter pareille accusation mensongère. Ici, on a cité l'exemple de l'honneur d'une femme, mais dans le prochain hadith, on a donné des conseils plus généraux. Abu Saïd Khoudri rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que le croyant qui couvre les défauts de son frère, Allah le fera entrer au paradis. C'est-à-dire, au lieu de chercher les défauts de l'autre, vous devez cacher ses défauts. C'est un avertissement pour les deux parties concernées. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles ici, à savoir que vous devez résoudre ces disputes par des moyens licites. Vous ne devez pas porter des accusations mensongères les uns contre les autres. Et si vous usez de moyens licites, et si vous cachez les faiblesses des autres, de toute façon, quand on se marie, l'on connaît les faiblesses de l'autre. Donc, si vous continuez à cacher les défauts des autres, même si la situation s'est envenimée, Allah vous fera entrer au paradis. Dans le premier hadith, on a indiqué un moyen pour se protéger du châtiment, à savoir qu'Allah vous protégera du feu de l'enfer. Si vous cachez les défauts d'un autre, mais ici, il est dit que vous allez entrer au paradis si vous cachez les défauts d'un autre. Non seulement que vous serez pardonné, mais Dieu va vous accorder d'innombrables faveurs. Dans ce hadith, Hadrat Abdullah bin Omar rapporte que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré: les musulmans sont frères, et un musulman ne commet point d'excès contre son frère musulman, et il ne l'abandonne pas lorsqu'il est en besoin. Celui qui est toujours prêt à aider son frère, Allah sera toujours prêt à l'aider. Celui qui a dissipé la souffrance d'un musulman au jour de la résurrection, Allah dissipera une de ses souffrances. Et celui qui a couvert les défauts de son frère musulman au jour de la résurrection, Allah va couvrir ses faiblesses. Voilà donc le niveau que doit atteindre un vrai musulman. Voilà le niveau que doit atteindre tout Ahmadi. tout Ahmadi qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. On a prêté allégeance qu'on va abandonner ses défauts. À ce propos, que déclare le Messie promis alayhi salam? Il déclare que je constate que dans la Jamaat, l'on s'attaque à l'honneur de l'autre pour de simples broutilles. Il y a des disputes pour des broutilles et on s'attaque même à l'honneur de son frère pour ces simples disputes. Cela est inconcevable, dit le Messie premier alayhi salam. Quel mal y aura-t-il si l'un accepte ses fautes ou ses défauts? Certains ne mettent pas fin à une dispute sans avoir humilié l'autre. Il vous incombe d'éviter ces choses. Allah est Sattar. Pourquoi donc ne pas couvrir les défauts de l'autre? Pourquoi ne pas pardonner et couvrir les faiblesses de l'autre? On ne doit pas s'attaquer à l'honneur de son frère. Le Messie premier alayhi salam déclare que j'ai lu dans un livre qu'un roi avait l'habitude de transcrire le Coran de ses mains. Un jour, un mollah lui a dit que vous avez commis une erreur dans ce verset ici. Le roi a encerclé ce mot dans ce verset et a déclaré que je vais voir après ce que je dois faire. Lorsque le mollah est parti, le roi a effacé ce cercle. On lui a demandé « Pourquoi avez-vous agi ainsi ?» Au lieu de couper ce mot, vous avez enlevé ce cercle. Il a déclaré qu'en fait, l'erreur était de la part du mollah, mais j'ai mis ce cercle afin de le réjouir. En dépit de son autorité, ce roi a fait preuve d'humilité. Il a fait preuve de patience. Il n'a pas déclaré que « Toi, tu es mon sujet, comment oses-tu me parler ainsi ?» Et ce roi a couvert le défaut de l'autre. Il l'a protégé de toute humiliation. Il a déclaré que « Je vais voir ce que j'ai à faire après. » Le Messie premier alayhi salam déclare que voilà le niveau que l'on doit atteindre. Ce sera le comble de l'orgueil et une grande indignité que de proclamer sur tous les toits les défauts d'un tel. Si l'on agit ainsi, l'on va nuire à son âme. On doit éviter ce genre d'action. Tout cela fait partie de la taqwa, et on doit agir avec taqwa concernant les affaires internes et externes. Et c'est là que l'on entrera dans la catégorie des anges, et il n'y aura plus aucun aspect de rébellion. Donc, lorsqu'on va atteindre ce niveau de la taqwa, l'on sera de la catégorie des anges qui ne sont coupables d'aucune rébellion. Adoptez la taqwa, car c'est après avoir adopté la taqwa que l'on jouit des bénédictions de Dieu. C'est ainsi que l'on sera protégé des calamités. Adoptez la taqwa, déclare-t-il, afin de vous protéger des calamités. Et c'est ainsi qu'Allah va couvrir vos manquements. Tant que vous n'adoptez pas ce moyen, vous n'allez pas profiter de votre allégeance avec moi. Comment profiter de cette allégeance alors que le mal est encore en vous? Si l'on ne couvre pas les faiblesses de l'autre, ce sera une mauvaise action de votre part. Si ce mal est toujours présent, alors cette allégeance ne sert à rien. Le Messie premier alayhi salam déclare que si l'emportement, l'orgueil, l'arrogance, l'ostentation, la furie que l'on trouve chez les autres perdurent en vous, alors quelle différence y a-t-il entre vous et les autres? Si vous êtes orgueilleux comme les autres, si vous êtes artificieux comme les autres et si vous avez de la colère comme les autres, alors quelle différence y a-t-il entre vous et les autres? Si dans un village, il y a une seule personne de bonne nature, les gens seront influencés par lui Le vertueux qui adopte la vertu pour la cause de Dieu a une force qui a de l'effet sur les cœurs, et les gens sachent que sa personne vient de la part de Dieu. Celui qui vient de la part de Dieu profite de la grandeur de Dieu. Et ne vous fiez pas de blesser les sentiments de vos frères pour des broutilles. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est celui qui est la personnification des excellences morales. Et Dieu lui a placé comme le dernier exemple pour nous. Mais si ces grossièretés perdurent, alors ce sera là un grand malheur. Vous faites maintenant partie des Akhirines. Donc profitez de cette relation. Le Messie premier salam déclare: ne cherchez pas les fautes des autres, car si vous agissez ainsi, dans certains cas, vous en serez vous-même victime. Si l'autre possède ses défauts, alors sachez que son cas est entre les mains d'Allah. Il y a de nombreuses personnes qui portent des accusations mensongères et diffamatoires sur leurs frères. Vous devez éviter ces actions et vous devez être d'un avantage quelconque aux autres et vous devez traiter vos frères avec sympathie et vous devez les traiter avec aménité et vous devez éviter le shirk. Voilà la première brique dans la taqwa. La raison de tous ces défauts est le shirk. Si vous avez la crainte de Dieu, si vous savez que Dieu est en train de vous regarder, vous n'allez point commettre pareille action, des actions qui vont vous pousser vers le péché. Dans le Saint-Coran, Allah a donné un avertissement sévère à l'homme, à savoir qu'il doit couvrir les défauts de son prochain. Il est dit dans ce verset: Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katheeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ô vous qui croyez, évitez d'avoir trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est un péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas non plus les uns des autres. L'un d'entre vous aimera-t-il manger la chair de son frère mort? Certainement, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, assurément, Allah est celui qui revient très souvent avec compassion, il est miséricordieux. Dans ce verset, Allah a évoqué la suspicion ou les doutes infondés ou le fait d'avoir de mauvaises opinions. C'est cette méfiance infondée à l'égard de l'autre qui est la cause majeure du mal que l'on voit dans la société. En raison de la méfiance, l'on cherche les défauts de l'autre afin de l'avilir, afin de l'humilier, afin de le traîner dans la boue. C'est pour cette raison qu'il a été dit que dans les affaires générales, dans les affaires personnelles, vous ne devez point espionner les gens, car Allah n'aime pas cela. Allah n'aime pas que vous espionnez, que vous épiez les autres. Et après cela, le prochain pas sera la médisance. Si vous avez su quelque chose à propos de quelqu'un et si grâce à cela vous pouvez humilier quelqu'un et que vous usez de cette parole pour humilier quelqu'un, ce sera de la médisance. Et si Allah a caché ses défauts, vous avez exposé ses défauts et vous avez commencé à médire. Mais sachez qu'Allah déteste de pareilles actions. Personne n'a le droit d'exposer au grand jour ce qu'Allah a protégé des regards des autres. C'est pour cette raison que dans ce hadith que j'ai cité, il est dit qu'Allah a déclaré que celui qui ne couvre pas les faiblesses de l'autre sera châtié. Si vous exposez les défauts d'un autre, vous allez avilir l'autre d'une part, et d'autre part, le mal va se répandre à la société. D'une part, la personne dont vous avez dévoilé les défauts peut, dans certains cas, réagir violemment. Et ainsi, cela va générer de l'animosité, alors qu'Allah demande que vous devez être des exemples d'amour et de fraternité. Vous devez être à la lumière de ce verset, « Rohama au Bainahum ». Ensuite, en dévoilant ces secrets, vous allez envenimer la relation entre cette personne et ses proches. La première réaction est que vous avez dévoilé ses secrets et cette personne va se courroucer et il y aura des disputes. D'autre part, certaines des choses que vous allez dévoiler peuvent semer de la zizanie. Par exemple, vous pouvez dire que tel parent, telle personne a déclaré ceci à telle occasion. En premier lieu, si cette personne est réellement coupable de médisance à l'égard d'un autre, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Pourquoi ne pas lui avoir prodigué des conseils? Et si vous n'aviez pas l'occasion, pourquoi n'avez-vous pas prié pour lui? Mais maintenant, vous avez répété cette parole et vous êtes coupable de médisance. D'une part, cette personne est coupable de médisance. Cette personne est en train d'exposer les faiblesses d'un autre. D'autre part, cette personne est en train de créer des troubles dans la société. Et comme il a été dit, ces façades, ces troubles sont pires que le meurtre. Ensuite, celui qui est en train de médire va répandre le mal de la société, va répandre l'indécence de la société. Car ce que vous avez évoqué, si c'est un péché, alors ce péché va affecter les faibles ou les jeunes et ils seront poussés à commettre les mêmes péchés. Ils vont dire, un tel est coupable de tel péché, alors nous aussi nous pouvons commettre un acte pareil. Allah déclare, « Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah » Ceux qui aiment que l'immoralité se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. Allah aime la pudeur, Allah aime la retenue, Allah aime que l'on couvre les faiblesses des autres. Mais quant à ceux qui outrepassent les limites, quant à ceux qui répandent l'immoralité dans le monde, quant à ceux qui veulent que le mal se répand parmi les croyants, parmi eux, il y a ceux qui médisent et qui exposent ces péchés au grand jour. Il est dit donc, qu'ils seront châtiés ici-bas et dans l'au-delà. Car lorsque le mal se répand de la société et lorsqu'on commence à dévoiler la nudité des uns et des autres, il n'y a plus de pudeur. En Occident, on commet ouvertement pareille action tout simplement parce qu'il n'y a plus de pudeur. Et maintenant, grâce à la télé, grâce aux médias, il y a de l'indécence partout dans le monde. Et on nomme cela la liberté. Et c'est ainsi que l'indécence est transmise de génération en génération. Et malheureusement, dans certains endroits, certains Ahmadis en sont coupables. C'est pour cette raison que l'islam a souligné l'importance de la pudeur. Et l'islam a aussi déclaré que vous ne devez pas chercher les défauts des autres. Et vous ne devez pas exposer ces défauts. Si vous avez eu vent d'un défaut de quelqu'un, et que si cette personne est éhontée et commet ses péchés ouvertement, vous devez informer la Nizam et Jamaat, vous devez informer les responsables de la communauté et vous écarter. Voilà votre responsabilité. Vous devez prier pour cette personne. Si vous exposez ses défauts au grand jour et si vous en tirez un malin plaisir, vous allez vous écarter de la taqwa et vous serez coupable de médisance. Si par hasard vous avez eu connaissance du défaut de quelqu'un et que cette personne s'en est repentie après, mais que en raison d'une animosité quelconque, vous profitez d'une occasion pour exposer le défaut de cette personne, si vous divulguez cela, d'une part, vous serez coupable d'avoir exposé le défaut de quelqu'un, mais vous allez médire aussi, et ainsi vous allez consommer la chair de votre frère mort. Vous devez donc tout faire pour protéger la société des troubles et vous devez agir ainsi afin de vous protéger du feu de l'enfer. Et pour cela, vous ne devez pas exposer les défauts des autres. Mais si vous voulez réformer quelqu'un, alors vous devez prier et informer les responsables de la communauté. Vous devez agir ainsi si le mal continue à se répandre. Ensuite, il incombe à ceux responsable d'agir dans le secret et de réformer cette personne. Mais si cette personne ne s'entête pas à commettre ses péchés, alors les responsables doivent s'évertuer à ne pas exposer au vu et au su de tout le monde ses défauts. Le Messie premier des salams déclare que les membres de la Jamaat doivent prier pour leurs frères qui sont faibles. Si vous ne priez pas et si vous exposez les défauts de votre frère, vous serez coupable. Il n'y a aucun péché qu'il est difficile à enlever. Donc vous devez aider vos frères par l'entremise de la prière. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a défini la médisance en disant que c'est dire une vérité sur quelqu'un en son absence, alors que si vous disiez cela en sa présence, cela le blessera. Voilà donc la définition de la médisance. Et si le défaut que vous lui attribuez n'est pas présent chez lui, alors c'est une calomnie de votre part. Allah déclare que « Voulez-vous consommer la chair de votre frère qui est mort ?» Donc, la médisance est similaire au fait de consommer la chair de son frère mort. Le Messie premier des salams déclare que la Jamaat est encore à son enfance. Mais maintenant, On est 120 ans après la création de la Jamaat et lorsqu'on s'éloigne d'un prophète, les mots refont surface. Et de toute façon, la Jamaat est en train de grandir par la grâce d'Allah. Il y a des gens de différentes origines qui entrent dans la communauté. Certains n'ont pas pu se débarrasser de leurs défauts. Et il y a aussi d'autres, des anciens Ahmadis, qui n'ont pas compris c'est quoi la taqwa. Et c'est pour cette raison que le mal se répand. Donc, cette période est très dangereuse. L'on doit se réformer et on doit se souvenir des conseils préconisés par le Messie premier des salams et on doit les traduire dans la pratique. Le Messie premier des salams déclare qu'il y a certaines faiblesses de la communauté. Il y a certains qui sont en convalescence. Il y a d'autres qui sont forts. Si vous voyez un faible, vous devez le conseiller en apporter. Si vous avez une vraie sympathie pour cette personne, si vous avez de la sympathie pour la communauté, alors vous devez réformer séparément votre frère. Au lieu d'exposer ses faiblesses, au lieu de dévoiler ses défauts, vous devez le conseiller en aparté, séparément, loin des regards des autres. S'il n'accepte pas, alors vous devez prier pour lui. S'il n'accepte pas, vous devez considérer cela comme un décret de Dieu. S'il a été accepté par Dieu, vous ne devez pas vous courroucer en voyant ses défauts. Il se peut que cette personne puisse se réformer. Donc, maintenant, il y a la Jamaat. Vous devez informer la Jamaat. Et ensuite, la Jamaat doit agir avec maintes précautions et doit garder tout cela au secret. Et la Jamaat ne doit pas dévoiler les secrets des autres. Le Messie premier, l'Islam, déclare qu'il y a bon nombre d'adultérins et de voleurs qui se transforment en saints. Nous n'agissons pas par emportement avec empressement. Donc, vous devez réformer vos frères tout comme vous réformez vos enfants. Le Saint-Coran n'enseigne pas que vous devez divulguer les défauts des autres. Allah déclare « Tawassaw bis-sabr wa tawassaw bil-marhama ». C'est-à-dire « Agissez avec patience et avec bienveillance ». Marhama signifie que vous devez conseiller l'autre à abandonner ses défauts et vous devez prier pour lui. Il y a de grands effets dans la prière. Combien malheureux sera-t-il de constater que certains vont évoquer de centaines de fois les défauts des autres, mais ne va pas prier une seule fois pour eux. On a le droit d'évoquer les défauts d'un autre après avoir prié 40 jours en pleurant pour lui. Vous devez adopter les qualités de Dieu. Mais cela ne veut point dire que nous devons soutenir le péché, mais cela veut dire tout simplement que vous ne devez pas médire, car il est dit que c'est un péché. À propos de Cheikh Sadi, il est dit qu'il avait deux élèves. Il y avait un qui était un érudit et l'autre était jaloux de la connaissance de l'autre. L'érudit a dit à Sadi que lorsque je dis quelque chose, l'autre est jaloux. Le cheikh a répondu que le premier a adopté la voie de l'enfer en étant jaloux, mais toi, tu es coupable de médisance. La médisance aussi est un péché. Le Messie premier, les salams, déclare « Cette Jamaat ne va pas progresser tant que l'amour n'est pas présent, tant que l'on ne prie pas pour l'autre et tant que l'on ne couvre pas les défauts de l'autre. » Et la Jamaat est en train de grandir. L'on doit donc s'efforcer d'agir en ce sens. Et on ne doit pas semer la zizanie dans la communauté. Le Messie premier des salams a prodigué ce conseil à plusieurs reprises, à savoir qu'on doit couvrir les défauts des autres et on doit prier. Qu'Allah nous donne la possibilité de profiter de ses enseignements et de profiter de cet attribut de Dieu qu'Allah nous accorde ses grâces et ses faveurs et qu'il génère de la haine dans nos cœurs pour tous ces péchés. Qu'Allah fasse que nous puissions marcher sur les voies de la vertu et que nous puissions atteindre le but de la venue du Messie promis à l'Islam.